Et des fois, il faut courir pour sauter dans le wagon, pour être dans ce train qui avance. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui avance. Ce n'est pas un royaume qui stagne, qui ne bouge pas. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui va de l'avant, qui avance pour accomplir les plans du Seigneur. Et Dieu veut accomplir son plan, c'est-à-dire d'établir son règne sur la terre au travers de son Église, au travers de son épouse. Et il est tellement important que l'Église, que l'épouse de Christ, soit vraiment l'épouse que Dieu veut. Alors chacun a son idée sur l'épouse. Chacun a son idée, sa pensée sur qui est l'épouse, comment est l'épouse. Mais une chose est sûre, celui qui a la meilleure idée de l'épouse, c'est Christ. C'est l'époux lui-même. Nous, on ne connaît qu'une partie de l'épouse. J'ai la chance et le privilège de voyager, de visiter beaucoup d'églises, beaucoup de communautés, beaucoup de pays. Je vois plusieurs facettes. Et je vois que l'église complète, ça va être toutes les parties du corps. Dieu ne va pas marier une épouse qui n'a qu'une jambe, ou qu'un bras, ou qu'un œil, ou une épouse sans tête, elle ne serait pas très belle. Bien sûr, Christ est la tête. Mais chaque partie de l'épouse est importante. Et Christ est en train de bâtir une épouse complète. Vous savez qu'il revient pour chercher une épouse. Cette épouse, elle va être belle. Vous saviez ça? Jésus ne vient pas chercher une vieille fille toute ridée, toute fatiguée, toute ennuyée, qui n'a même plus envie de se marier. Hein? Jésus vient chercher une belle épouse. Une belle épouse qui est belle, qui est rayonnante, qui transmet la gloire, qui est superbe. Vous savez, quand on va dans un mariage, qu'est-ce qu'on regarde? La mariée, hein? C'est elle qu'on attend. On attend de voir son habit, on attend de voir la beauté, on attend de voir tout ce qu'elle va nous montrer. Et cette mariée, cette épouse, c'est celle-là que Christ vient chercher aussi. Il vient chercher une belle épouse. Peut-être que nous, on ne voit pas les bons côtés de l'épouse. Peut-être que nous, on a vu seulement les choses qui ne sont pas encore belles, qui ne sont pas encore prêtes. Mais Jésus est en train de la purifier, de la nettoyer, de la changer pour qu'elle soit belle. Il vient chercher une belle épouse. Et cette épouse, elle va être habillée d'un bel habit. Vous saviez ça? Elle aura une belle robe aussi. Et si on prend le mot habit dans la parole, on voit dans Ésaïe 61 que Dieu nous dit qu'il va nous habiller d'un bel habit aussi. C'est quoi cet habit? C'est l'habit de la louange. Il va nous revêtir du vêtement de la louange au lieu du vêtement du deuil. Pendant des siècles, l'Église a mis le vêtement du deuil. Quand tu allais à l'Église, c'était triste. Quand tu allais à la réunion, c'était mortel. C'était ennuyeux. Ça sentait plus la mort que la vie. Jésus veut changer ça. Jésus veut changer la mort en vie. Jésus, il aime trop la vie. Il veut une épouse vivante. Il veut la vie. Et c'est pour ça qu'il lui donne un habit de vie, un habit de fête. Et une église qui reflète Christ, elle a la joie. Il n'y a rien de plus triste qu'un triste chrétien. Un chrétien triste, ça ne devrait pas exister. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des difficultés, des combats, des luttes, mais un chrétien triste, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que la joie du Seigneur sera ma force. C'est ta force, la joie du Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut te donner sa joie? Est-ce que tu peux saisir sa joie pour être fort? Ou est-ce que tu te languis dans tes problèmes, dans tes souffrances, dans tes tristesses? On sait dur la vie. Vivement qu'on soit au ciel. Vivement que le Seigneur revienne pour nous enlever de ces douleurs, de ces souffrances. Mais Christ, il est la vie. Il est la joie. Il est la présence au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. Et si il n'y a pas cette présence dans ta vie, il manque quelque chose. Il y a des chrétiens qui vivent même sans la présence de Jésus, qui ont adhéré à une philosophie, à un club chrétien, à une église chrétienne, et qui n'ont pas la présence de Jésus. Est-ce qu'on a besoin? C'est ça. Plus que tout le reste, ce n'est pas de remplir notre tête, c'est de remplir notre cœur, notre esprit de sa présence. Et en francophonie, et je m'inclus avec vous, je viens de la Suisse, mais de la Suisse francophone, on parle français, on est très influencé aussi par la francophonie, par les philosophes français, on veut toujours remplir la tête, on veut comprendre, on veut analyser, on veut expliquer, on veut philosopher. Dieu n'est pas un Dieu qui s'explique, n'est pas un Dieu d'arguments. Dieu est un Dieu qui s'expérimente et qui se vit. Et Dieu veut qu'on le vive aujourd'hui. Et c'est dans la mesure où tu vas vivre sa présence dans ta vie, ici, qu'il va se révéler à toi et aux autres. Alors Seigneur, j'aspire à ta présence. Je veux vivre près de toi, comme on l'a chanté. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester près de toi. Pas juste à la réunion, pas aller à l'église. Je veux être l'église. L'église, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est moi. Nous sommes l'église. Et Christ va se révéler au travers de toi, si tu le laisses, si tu lui permets de le faire. Et Christ va bâtir un autel aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il bâtit un autel parmi les peuples et les nations. Ce n'est pas les anciens autels de pierre, comme en Israël, comme ont fait nos pères dans la foi. C'est un exemple, ce qu'ils ont construit. Aujourd'hui, Dieu construit un autel avec des pierres vivantes. Et c'est un paradoxe. Dans Romains 12, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Essayez de faire un sondage dans la rue et d'aller demander aux gens « C'est quoi un culte raisonnable ?» Certains, ils ne vont pas savoir ce que c'est le culte, ils vont penser à la messe. Puis d'autres, ils vont dire « Un culte raisonnable ?» Eh bien, c'est une réunion pas trop ennuyeuse, où on a quelques chants, quelques annonces, un message pas trop long et pas trop ennuyeux. Ça, c'est raisonnable. Mais pour Dieu, le culte raisonnable, c'est quoi? D'après la parole, Romains 12, c'est que vous offriez vos corps en sacrifice vivant. Et il y a un problème là. Parce que dans la Bible, les sacrifices, ils sont jamais vivants, ils sont toujours morts. On les amène vivants, mais après on les tue. Vous avez remarqué ça? Vous avez lu dans les Lévitiques, dans les Nombres, dans l'Ancien Testament, on amène le sacrifice au temple et on le consume. Un sacrifice entièrement consumé. Seigneur, comment je peux être sacrifice puis vivant? Est-ce que je dois être un kamikaze? Est-ce que Dieu veut des kamikazes dans l'église aujourd'hui? Qui se font exploser pour son royaume? Pour qu'on en parle dans les journaux? Un sacrifice vivant, chrétien, à Bordeaux. Il s'est immolé par le feu, afin qu'on parle du Seigneur Jésus. Vous imaginez ça? Non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein? Ça, c'est le plan de l'ennemi. Parce que le règne du diable, c'est le règne de la mort. Le règne de Jésus, c'est le règne de la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Donc, il veut qu'on soit des sacrifices vivants. Ça veut dire quoi, un sacrifice vivant? Ça veut dire qu'on est complètement abandonné au Seigneur. Le meilleur sacrifice vivant que je connaisse, c'est Isaac. Isaac est allé avec son père faire une belle excursion. Son père lui dit, « Viens, Isaac, on va monter sur la montagne. On va aller se promener. Mets tes chaussures, mets ton bon manteau. » Prends ta gourde et on va aller voir le soleil depuis là-haut. Et puis le père, il prépare tout. Il prépare le bois, il prépare le feu, il prépare les habits, il monte. Il a le couteau dans la poche. Et Isaac, en chemin, commence à réfléchir. Hein? Et il pose des questions. Il dit, papa, c'est dans Genèse 22 que vous pouvez lire cette histoire. Genèse 22. Il dit, papa, tu as le feu, tu as le bois, tu as tout, mais où est l'agneau ? Isaac réfléchit là. Hein. Il a déjà vu son père offrir des sacrifices. Il dit, il y a un problème, il manque quelque chose. Papa, comment on fait? Et papa répond, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Et Isaac continue. Et quand ils arrivent en haut, papa, Abraham, vous connaissez papa Abraham? Il prépare, hein? Il prépare l'autel. Il prend les pierres, il les aligne, il fait la place pour le feu. Il prépare le bois, il installe les bois, et puis il invite à Isaac, il dit, vas-y Isaac, monte. Isaac, il est encore vivant. Isaac n'est pas mort. Isaac n'est pas attaché. Isaac n'est pas lié. Isaac est libre. Et Isaac monte. Isaac, il a 12 ans. Abraham, il en a 100. S'ils font une petite course, je suis sûr que c'est Isaac qui gagne. Je suis sûr qu'Isaac, il a la capacité de s'enfuir beaucoup plus vite et que son père ne va pas le rattraper. Isaac, il reste. Il monte sur l'autel. C'est le meilleur exemple d'un sacrifice vivant. Aujourd'hui, Dieu demande à l'Église d'être des sacrifices vivants. Dieu prépare l'autel. Il est gentil, hein. Il prépare les pierres, il prépare le bois, il prépare le feu et il te dit, monte. Est-ce que tu veux monter? Seigneur, laisse-moi réfléchir un peu. Seigneur, je vais y songer. On verra plus tard. C'est ça qui est difficile. Si tu es mort, c'est beaucoup plus facile. Si on t'égorge, puis on te pose sur le feu, tu ne vas rien sentir. Mais là, tu es vivant et Dieu te demande de monter. Et le feu de Dieu commence à chauffer un peu. Purifie mon cœur, feu du fondeur. C'est bien à chanter ça. Hein? Mais quand le feu de Dieu vient vraiment, on dit, arrête Seigneur, arrête. Je vais chercher l'eau pour éteindre le feu là. Il y a le diable qui me brûle. Et des fois, c'est Dieu qui veut brûler des choses, qui veut consumer. Et ce n'est pas facile. Mais Dieu cherche aujourd'hui une église de sacrifices vivant. Il veut bâtir un autel avec des pierres vivantes. Une église vivante. Il veut plus de l'église morte. Il y a certaines églises, elles ressemblent plus à la mort qu'à la vie. C'est un bâtiment mort avec des gens morts. Ils sont tellement morts qu'ils n'osent pas faire de bruit. On entre et tout d'un coup, on perd la voix. On chante à peine pour ne pas réveiller Dieu. On reflète plus la mort. Dans cette église-là, il y a plus d'enterrements que de réunions de louanges. Il y a plus de culte à la mort que de culte à la vie. Dieu veut la vie. Dieu veut ramener la vie. Même dans une église morte, il veut ramener la vie. La vie de sa présence, la vie de son esprit, la vie, la louange. Une épouse joyeuse qui se prépare, mais une épouse qui se prépare pour le mariage, comment elle est? Oh, c'est dur, dans 2 semaines je vais me marier. Comment ça va être difficile? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Cette journée va être longue? Non. Elle se réjouit, elle essaie sa robe, elle invite ses amis, elle explique tout comment elle va faire, et puis elle attend ce jour. Et c'est ça la louange de l'église d'aujourd'hui, c'est celle qui attend le jour de l'époux. Le jour où il va revenir, où il va nous rencontrer, on va bâtir cet autel, n'est-ce pas? On va bâtir un autel vivant. Alors la vie, des fois, ça dérange. Des fois, la vie, ça fait un peu de bruit. Vous savez, les enfants, ils sont pleins de vie. On dit, oh, ces enfants-là, ils sont remplis de vie. Calmez-vous un peu. Un enfant, tu lui dis de rester tranquille 30 secondes, c'est un supplice parfois. Hein? Parce que la vie, elle pousse de tous les côtés, puis il veut bouger, il veut parler, il veut faire quelque chose. La vie, elle sort. Et ça, c'est normal. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il n'y a que nous qui sommes adultes raisonnables, qui arrivons à gentiment, doucement dire à la vie de se taire. Mais Dieu veut la faire germer en toi. La vie de l'esprit, la vie de prière, la vie de louange, la vie de l'évangéliste, la vie du témoignage. Tout ce qui est vivant en toi. Il veut utiliser ta bouche. Si tu es mort, tu ne peux plus parler. Dieu, il n'a pas besoin de monde au ciel pour l'instant. Il en a besoin sur la terre. Il y en a déjà des millions là-haut. Il nous attend ici. Là-dessus, sur cette terre, dans ta famille, dans ton bureau, dans ta maison, Dieu attend ta bouche pour parler. Dieu attend tes mains pour bénir, pour servir. Bien sûr que Dieu pourrait venir d'une manière miraculeuse, descendre avec sa main, toucher quelqu'un dans ta famille. Il pourrait même envoyer un ange. Ça serait des fois plus facile, hein. Mais Dieu, il a choisi de l'utiliser, toi, comme l'ange du Seigneur, comme l'envoyé du Seigneur, avec ta bouche, avec tes mains, avec tes pieds. C'est ça le sacrifice vivant. C'est ça le sacrifice vivant. Mais pour être un sacrifice vivant, il faut être complètement abandonné au Seigneur. Et c'est ça la difficulté. Accepter quand Dieu te dit « Viens sur l'autel. » Ok Seigneur, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Je ne sais pas comment tu vas me sortir de là, mais j'accepte. Et souvent on ne sait pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On a juste besoin d'obéir. Isaac, il a obéi, il avait confiance en son père. Et son père, il avait confiance en Dieu. Et des fois on ne comprend pas. On doit laisser de côté notre raisonnement. On doit laisser de côté notre intelligence. Et on doit entrer dans les choses de Dieu. Dans l'adoration, on ne peut pas non plus tout comprendre, tout expliquer. Pourquoi il a chanté ce mot? Pourquoi il a joué cette note? Pourquoi il est... Non. Adore Dieu. Adore-le avec tout ce que tu es. Avec tes mains, avec tes pieds, avec tes... Tout. La première fois que j'ai levé les mains dans la louange, je m'en souviens encore. J'avais l'impression que mes mains avaient des poids de 10 kilos. Et que je levais mes mains d'une difficulté. C'était lourd, c'était difficile. Et à peine j'avais levé les mains ici, je pensais que j'avais fait un exploit. Alors que la Bible dit, mais bénissez Dieu, levez les mains en son nom dans le sanctuaire, élevez vos mains. C'est pas compliqué, non? Comme par hasard, c'était difficile. Et après, la première fois que j'ai bougé mes pieds, j'ai l'impression qu'ils étaient collés, cloués au sol. Ah, c'était la pub pour l'araldite qui colle mieux. Hein. Mes pieds ne bougeaient pas. Quand Dieu m'a dit, lève tes pieds, bouge, danse. Sois libre dans ma présence. Pourquoi je peux sauter en faisant du sport, puis je ne peux pas sauter dans la présence de Dieu? Il y a un problème. C'est Dieu qui m'a créé. Je peux le louer avec tout mon corps et je dois le louer avec tout mon corps. Dieu l'attend. Ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un show. C'est juste être libre. Je suis libre en Christ. Christ t'a libéré, non? Ce n'est pas pour te remettre sous l'esclavage. Donc, ne sois pas sous l'esclavage de la religiosité, du système, de l'Église. Sois sous la liberté de Christ. Ça, c'est des vrais adorateurs. Un adorateur vivant, il exprime la vie, il laisse passer la vie. Et Dieu bâtit un autel vivant aujourd'hui, de pierres vivantes partout, avec des enfants, avec des adultes, avec des femmes, avec des hommes. Il n'y a plus de catégorie de limitation. Tous, on peut bâtir cet autel. Bien sûr qu'il y a des ministères qui nous servent, il y a des ministères qui nous conduisent, mais au-delà de ça, chacun est appelé à cela. Dieu bâtit cet autel. Parce que pour être un sacrifice vivant, il faut être entièrement consacré à l'autel, consacré au Seigneur et se soumettre à lui. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème, mes frères et sœurs, on a un problème parce qu'on n'aime pas se soumettre. On aime être rebelle, indépendant. Ça, c'est la nature humaine, sans Dieu. Et Satan s'est bien poussé là-dedans. Vis ta vie, laisse Dieu de côté, laisse tes parents, laisse ton église. Vas-y, tu es assez grand, tu es capable. Et la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est la rébellion. Nous cherchons à nous détacher déjà de nos parents et de Dieu, alors que Dieu nous invite à nous attacher à lui. L'adoration, la vie chrétienne, c'est le contraire. Au lieu de nous détacher, c'est de nous attacher à lui. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux être dépendant de toi. Et quand tu dis ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va dire, mais tu es faible, toi. Je ne sais même pas te débrouiller tout seul. Tu as besoin d'un Dieu. Et je dis, oui, je ne sais pas me débrouiller tout seul. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Sur cette terre, dans ce monde, je ne peux pas assumer la vie sans Dieu. Je peux essayer. J'ai déjà essayé souvent. Je sais très bien où j'arrive. Sans Dieu. Il n'y a que lui qui peut m'aider. Il n'y a que lui qui connaît le plan. Il n'y a que lui qui connaît l'avenir, qui connaît la terre, qui connaît tout. C'est le Créateur. J'aime mieux aller au mode d'emploi, moi. Hein? Plutôt que d'essayer de me débrouiller tout seul, comment ça marche, puis de faire plein d'erreurs, je vais directement voir le mode d'emploi, la parole de Dieu, et celui qui l'a écrit. Je vais lui parler. Je vais me soumettre à lui. C'est une soumission volontaire. L'adoration nous apprend la soumission. Un vrai adorateur, il se soumet à Jésus. Il dit, Seigneur, je viens à tes pieds, je viens devant toi, je t'adore. Adorer, ça veut dire exactement cela. En français, on a perdu le sens d'adorer. Adorer, ça veut dire venir devant le roi, se prosterner et lui embrasser la main. Vous imaginez ça? Le roi vous invite à sa table. Comment vous allez aller vers le roi? Salut au roi, je suis content de te voir. Tu vas bien? Non, j'espère en tout cas pas. Si vous avez reçu l'invitation pour aller dans la chambre du roi, vous allez y aller avec réjouissance. Quand vous allez recevoir l'invitation, vous allez sauter de joie dans votre salon, etc. Mais au moment, plus vous vous approchez du roi, plus vous avancez doucement. Plus le respect de sa présence s'impose à vous, plus la crainte de son nom descend dans votre cœur, plus vous commencez à retenir votre souffle, votre respiration, et dire, voilà, le roi est là. Et tout à coup, tu es tout proche de lui, il y a sa gloire, il y a sa lumière, et tu es comme Ésaïe. Malheur à moi, je suis un homme pécheur dont les lèvres sont impures. Je ne peux pas me joindre à cette louange. Tu vois les anges qui adorent, tu vois la gloire de Dieu. Si tu ne réagis pas comme ça, tu n'es pas normal. Si tu dis, oh c'est facile, je vais vers le Seigneur, c'est mon ami, il m'aime bien, tout va bien. Tu dois être confronté dans ton péché, dans ta vie de pécheur et voir la sainteté de Dieu. Mais en même temps, Dieu te dit, je te vois pur. Parce que Jésus a payé le prix, il t'a donné une nouvelle robe, tu peux venir. Mais même avec ça, tu vas y aller doucement, avec respect. Mais quand tu vas arriver devant lui, imagine qu'il est là, tu vas te prosterner devant lui. Tu vas attendre qu'il te relève, tu vas te courber dans sa présence. Et c'est lui qui va te relever. Et quand c'est lui qui te relève, tu peux te lever. Mais tu attends que ce soit lui qui te le dise. L'adoration t'apprend la soumission. On a tous besoin d'apprendre la soumission. La rébellion ne nous mène nulle part. La rébellion nous amène nulle part. On ne peut pas s'en sortir avec la rébellion. J'ai déjà essayé. Vous avez sûrement aussi essayé. Que ce soit dans votre propre famille, que ce soit dans une entreprise, dans n'importe quel quoi, ça nous amène contre le mur, la rébellion. Dieu veut nous apprendre à nous soumettre à lui. Et c'est comme ça que tu vas avoir de l'autorité, parce que tu as l'autorité du Seigneur. Dieu est l'autorité suprême. C'est pour ça qu'on peut se soumettre à lui. Moi, je n'ai pas de problème de me soumettre au plus grand, au meilleur, au plus fort. Je sais que je suis du côté des vainqueurs. Hein? Parce que le diable, il attend aussi la soumission. Il attend aussi l'obéissance. Et il t'amène même dans un esclavage. Et c'est un vilain maître, c'est un méchant maître qui te rend esclave. Et tous ceux qui courent dans la liberté, soi-disant la liberté, de vivre comme ils veulent, ils tombent très vite dans l'esclavage. L'esclavage de l'alcool, l'esclavage de la drogue, l'esclavage du sexe, l'esclavage de l'argent. Ils sont esclaves de ces choses. Ça les domine complètement. Alors qu'il pensait être libre. Et ce maître-là, il profite de toi. Il abuse de toi. Alors que notre Dieu, on se soumet volontairement et il nous aime. On se soumet, il nous adore. Il nous aime, il nous enlace, il nous saisit, il nous prend. Et il nous partage sa grâce, son amour. Quoi de mieux pour nous? Mais il attend Juste une chose, qu'on vienne à lui. Juste ça. Seigneur, je me soumets à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est même décrit dans la parole, vous avez déjà lu ça dans l'Ancien Testament, plusieurs textes disent, il est le Dieu Très-Haut. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose peut-être ce soir. C'est une erreur de traduction. Dieu n'est pas le Dieu Très-Haut. C'est le Dieu le plus haut. Et ça fait une différence, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui le dit. En français, notre cher traducteur Louis II et d'autres n'ont pas compris la subtilité. Heureusement, d'autres l'ont compris par la suite. Dans d'autres langues, en anglais, en allemand, c'est traduit le Dieu plus haut, the most high God en anglais. Le Dieu plus haut, ça fait une différence, vous savez. Si vous demandez à un alpiniste s'il est monté sur une très haute montagne, c'est bien. Puis il y en a un autre qui lui dit, moi je suis monté sur la plus haute. Ah, il a gagné, hein. S'il était sur l'Everest et les autres sont montés sur le Mont Blanc, il va gagner. La plus haute, c'est le meilleur. Celui qui saute le plus haut, il est meilleur que l'autre. C'est lui qui aura la médaille d'or. Donc, dans l'autorité spirituelle, c'est la même chose. Dans la hiérarchie, le plus haut, il est le plus important. Très haut, c'est bien, mais plus haut, c'est encore mieux. Et Satan a réussi même à déformer ça dans la parole. Donc, il faut avoir la sagesse pour comprendre ces choses. Et creuser et comprendre. Si Dieu est le plus haut, c'est qu'il est plus haut que tout. Il est plus haut que les dominations, plus haut que les autorités, plus haut que Satan, plus haut que tout, plus haut que les présidents, plus haut que les rois, plus haut que les chefs d'État, plus haut que les dictateurs. Il est plus haut. Pas seulement très haut, il n'est pas à la même hauteur. Satan aimerait être à la même hauteur que Dieu. Satan, il cherche à s'élever. Vous saviez ça? Il est dit dans 2 Thessaloniciens 2, le méchant s'opposera à tout ce que les hommes adorent, à tout ce que les hommes considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir, se faire passer lui-même pour Dieu. Voilà le plan de Satan. Satan n'a qu'un désir, piquer la place à Dieu. Excusez-moi l'expression. Il veut lui prendre sa place. Il attend qu'un moment où Dieu descende de son trône pour lui prendre la place. Il ne va jamais y arriver. Il a déjà perdu. Mais il cherche que ça. Son seul but, c'est de prendre la place d'autorité. C'est un sous-chef qui veut être chef, qui ne supporte pas le chef. Il veut faire un coup d'État. Il veut prendre cette place. C'est une obsession pour lui. Il veut s'élever. Il ne supporte pas. Et surtout au-dessus de ce que les hommes adorent. C'est pour ça que l'adoration, ce n'est pas si simple que ça. Et que des fois, et même souvent, il y a un combat pour l'adoration. Parce que Satan déteste l'adoration. Il aime l'autre adoration. Il aime quand on adore n'importe quoi, sauf Dieu le plus haut. Satan va chercher à te faire adorer ta voiture, tes vacances, ta famille, ton argent, même ton église. N'importe quoi sauf Dieu. Il y a des gens qui préfèrent l'église à Dieu. Oh, mon église, oh, mon pasteur, ma dénomination. Ils défendent plus ça que Dieu. Attention, soyons vigilants, l'adoration va seulement à Dieu. Elle va à personne d'autre. Elle ne va pas à la musique. Elle ne va pas aux hommes. Elle ne va pas à un ministère. Elle va à Dieu. C'est lui le plus haut. C'est lui le seul digne de louange. Donc Dieu nous attend dans cette adoration complète, totale, où on l'élève et on le met le plus haut. Et quand on le fait, Dieu est glorifié. Et Dieu descend. Et Dieu vient. Et l'ennemi est fâché. Et l'ennemi doit dégager. Parce que Dieu vient habiter au milieu des louanges de son peuple. Il ne vient pas seulement habiter dans un coin pour regarder ce qui se passe. Il vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. Donc s'il siège, c'est qu'il est sur le trône. Il a la place principale, la première place. C'est ce que Dieu veut. Dans ta vie, dans ma vie, il veut prendre la première place. Et pour cela, il a besoin que tu sois cette pierre vivante qui se met à sa disposition. Et là, il va pouvoir faire des choses incroyables. Toi, tu fais le possible, Dieu fait l'impossible. Le possible, c'est, Seigneur, je ne sais pas ce que je peux faire. Seigneur, j'ai des dons, mais je ne sais même pas les utiliser, mais je te les donne. Le possible, c'est ça. Donner ce que tu as au Seigneur, Dieu va faire le reste. C'est mon témoignage, c'est le témoignage de beaucoup d'autres. Si j'ai regardé à mes capacités, à mes dons, je n'aurais jamais fait ce que je fais. Mais avec Dieu, j'ai vu l'impossible se réaliser à plein de niveaux. Je n'ai jamais imaginé faire ce que je fais, mais j'ai vu la main de Dieu accomplir des choses au travers de ma vie. Sans que je le veuille même. La seule chose que Dieu m'attend, ou Dieu m'attend, c'est que je sois à sa disposition, que je sois à son service, que je sois soumis à sa volonté, soumis à sa présence. Et ce n'est pas juste une fois, c'est continuellement. Continuellement. Dieu nous attend toujours. Dieu nous attend encore. Et régulièrement, il nous invite à monter sur l'autel. Régulièrement. C'est pas, oui, je me souviens, 1972, comme on dit en Suisse, 72, j'étais dans une réunion, j'ai levé la main, c'était bien. C'est trop vieux, c'est 72, c'est beaucoup trop vieux. Est-ce que Dieu t'a pas appelé une fois de plus depuis? Dieu nous appelle souvent. Dieu frappe souvent à notre porte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on l'a mis dehors. Peut-être tout d'un coup, on n'avait plus de place pour lui. Accueille le Seigneur dans ta vie. Soumets-toi à sa volonté. Offre-toi comme un sacrifice vivant. Et Dieu va pouvoir se servir de toi. Et tu vas glorifier son nom. Et son nom sera glorifié dans ton église, dans ta famille et dans ta ville. Dieu recherche dans chaque ville des autels qui brûlent pour lui. Des parfums d'adoration pour lui. Tu peux être un parfum quand tu chantes, quand tu adores, quand tu pries, quand tu témoignes, quand tu sers dans la mission. Dieu veut être élevé. Et Dieu mérite d'être élevé. Et nous sommes ici simplement pour ça, pour dire, Seigneur, on veut élever ton autel. On vient vous encourager à le faire. Nous, on va repartir, on est dans notre ville, dans nos églises, à d'autres endroits où on fait la même chose. Et on vient vous dire, à Bordeaux, continuez d'élever l'autel du Seigneur. Continuez de l'adorer. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'avoir une place à Bordeaux. Il y a plein de choses qui ont de la place à Bordeaux. Hein? Il y a peut-être la place pour la politique, il y a de la place pour le football, il y a de la place pour les arts, pour le spectacle. Est-ce qu'il y a une place pour Jésus à Bordeaux? Est-ce que Jésus peut être accueilli à Bordeaux? Si Jésus vient, est-ce qu'on va lui dérouler le tapis rouge? Est-ce qu'on va vraiment l'accueillir? J'espère que vous pouvez dire amen. Que vous allez chercher à l'accueillir. Et je sais qu'il y en a déjà qui le font. Je ne viens pas là en disant ça ne se fait pas. Je sais qu'il y en a qui le font, qui ont cette cœur. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour ça qu'il y a cette école de louange. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses qui se passent aussi dans cette ville. Mais il faut encore et encore inviter le Seigneur à venir. Afin que son règne vienne sur la terre. Avec son règne, il y aura la guérison, il y aura la délivrance, il y aura des manifestations de puissance, des signes, des prodiges, des miracles. Et c'est ça que Dieu veut faire. Cela, on n'en aura pas besoin au ciel. On n'aura pas besoin de guérison au ciel. On n'aura pas besoin de miracles au ciel. Sur la terre, on a besoin de miracles, n'est-ce pas? Hein? On a besoin de miracles dans notre santé, dans nos finances, dans notre corps, dans notre famille. On a besoin que Dieu intervienne. Un miracle, c'est quand Dieu intervienne, quand tu ne peux plus rien faire. Et c'est ça qu'on a besoin. Et moi, je prie pour vous. Je prie afin que vous voyez la main agissante du Dieu des miracles. Que vous voyez la puissance de Dieu se manifester et que vous puissiez vraiment l'accueillir. Que votre raisonnement, que vos théories, que votre philosophie tombent au profit de sa présence. C'est ça qu'on veut. Amen. Je vais prier pour vous et ensuite on va continuer. On va aller dans le même sens de ce que je vous ai prêché. Dans la prière, dans le chant, dans l'adoration. À l'aide des chants, à l'aide des gestes, à l'aide de la danse, à l'aide de tout ce que Dieu nous a donné. Seigneur, on t'accueille encore et encore. On t'a déjà accueilli et on continue de t'accueillir. On veut t'élever comme le Dieu le plus haut. On veut reconnaître ta souveraineté, ta puissance, ton autorité, Seigneur. C'est toi le Dieu le plus haut. Et si tu es le plus haut, nous on est bien en dessous de toi. On reconnaît cela, Seigneur. On reconnaît, c'est bon pour nous d'être tes serviteurs, Jésus. C'est bon d'être à tes pieds, c'est bon d'être sacrifice vivant, même si ce n'est pas facile. Je te prie que tu nous aides. Tu nous montres, tu nous convaincs, tu nous diriges. Comment pratiquement, concrètement être ces sacrifices vivants? Aide-nous à nous offrir à toi, à brûler sur ton autel tout ce qui doit être consumé par toi et à te laisser nous utiliser, te servir de nous et bâtir ton royaume dans cette ville, Seigneur. Amen. J'invite le groupe à me rejoindre et on va continuer et on vous invite encore à continuer avec nous. Participez de tout votre cœur et bâtissez cet autel avec nous.